Cassini Huygens, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. https://fr.wikipedia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 2 mai 2021. Début de la deuxième partie de l'enregistrement. Sixième section, lancement et transit vers Saturne. Première sous-section, lancement. Une image du lancement de la sonde Cassini-Huygens le 15 octobre 1997 à Cap Canaveral par le lanceur Titan 4B Centaur illustre cette sous-section. Le lanceur Titan 4B Centaur, choisi pour lancer la sonde spatiale, est le plus puissant des lanceurs existants. La version Titan 4B n'a jusque-là volé qu'une seule fois, en avril 1997, pour placer en orbite un satellite militaire américain. L'utilisation d'un étage Centaur sur cette version est complètement inédite. D'un coût particulièrement élevé, 422 millions de dollars américains à l'époque, ce lanceur ne sera plus jamais utilisé pour lancer une sonde spatiale. Huygens et Cassini arrivent à la base de lancement de Cap Canaveral en avril et mai 1997 pour un dernier test avant d'être assemblés avec leur lanceur. Il est impératif de lancer Cassini-Huygens durant la fenêtre de lancement allant du 6 octobre au 15 novembre 1997, car c'est la dernière à permettre à la sonde spatiale de bénéficier d'une assistance gravitationnelle de Jupiter. Les solutions de tir suivantes font arriver la sonde spatiale dans le système de Saturne en 2009 au lieu de 2004. Un mois avant l'ouverture de la fenêtre, une installation de climatisation défectueuse endommage la protection thermique de la sonde Huygens. Il faut démonter la sonde spatiale, déjà installée sur son lanceur en place sur sa rampe de lancement, remplacer le revêtement endommagé et replacer la sonde sous la coiffe. Toutes ces tâches ne peuvent être achevées que le 13 octobre. Après un dernier incident dû à un problème d'ordinateur qui repousse de 2 jours le lancement, le lanceur s'évèle depuis le pas de tir numéro 40 de Cap Canaveral, le 15 octobre 1997, à 8h43 temps universel, 4h43 en heure locale. L'étage Centaur place la sonde spatiale sur une orbite d'attente, puis, 19 minutes plus tard, est rallumée durant 7 minutes et 15 secondes pour placer Cassini-Huygens sur une orbite héliocentrique. Le tir est presque parfait, et ne nécessite qu'une correction minime de 2,7 mètres par seconde, effectuée le 9 novembre 1997. Sixième section, deuxième sous-section, assistance gravitationnelle des planètes internes, 1997 à 1999. Un schéma du transit de Cassini-Huygens vers Saturne illustre cette sous-section. La sonde spatiale, particulièrement lourde, donc difficile à accélérer par son lanceur à recours, à 4 reprises à l'assistance gravitationnelle des planètes Terre, Vénus à 2 reprises et Jupiter, pour obtenir une vitesse suffisante pour atteindre Saturne. Malgré la puissance de son lanceur, la vitesse atteinte par Cassini-Huygens n'est pas suffisante pour parvenir jusqu'à Saturne. Pour y parvenir, il aurait été nécessaire que le lanceur Titan puisse accélérer la sonde spatiale à une vitesse de 15,1 km par seconde dans le référentiel héliocentrique, vitesse d'éloignement du Soleil. Or, compte tenu de la masse de celle-ci, le lanceur n'a pu lui communiquer qu'une vitesse de 12,4 km par seconde. Les concepteurs de la mission ont donc prévu d'obtenir la vitesse manquante en utilisant l'assistance gravitationnelle de Vénus 2 fois et de la Terre. Une dernière assistance gravitationnelle de Jupiter est utilisée pour raccourcir la durée du voyage. La sonde spatiale se dirige d'abord vers Vénus. Comme elle se rapproche du Soleil, la parabole de l'antenne à Hauguin est interposée entre l'astre et le corps de l'engin spatial pour limiter l'échauffement. Le 27 avril 1998, Cassini frôle la planète en passant à 287 km de la surface, ce qui lui permet d'infléchir sa trajectoire de 70 degrés, d'accélérer de 3,7 km par seconde dans le référentiel héliocentrique, et la place sur une orbite dont l'aphélie se situe au-delà de Mars. Le 3 décembre 1998, la propulsion principale est utilisée pour effectuer une importante correction de vitesse et donc de trajectoire de 452 mètres par seconde, qui ramène la sonde spatiale pour la deuxième fois au-dessus de Vénus le 24 juin 1999, à 603 km d'altitude. Avec l'accélération obtenue, 3,1 km par seconde dans le référentiel héliocentrique, la sonde spatiale survole la Terre seulement 56 jours plus tard, à une altitude de 1166 km, le 18 août 1999. L'assistance gravitationnelle liée à ce survol procure à son tour une accélération supplémentaire de 4,1 km par seconde et porte la vitesse de la sonde spatiale à 19,1 km par seconde, ce qui lui permet désormais d'atteindre Saturne. Faute de budget, tous les survols de Vénus sont effectués sans aucune collecte de données scientifiques. Les instruments sont utilisés pour des opérations de calibrage durant le survol de la Terre et le passage près de la Lune. Le 1er décembre 1999, l'orientation de la sonde spatiale est modifiée, de manière que l'antenne à haut gain soit pointée vers la Terre. Compte tenu de l'éloignement du Soleil, il n'est plus nécessaire qu'elle s'interpose entre le Soleil et le corps de la sonde spatiale. Le 23 janvier 2000, la sonde spatiale passe à 1,5 million de kilomètres de l'astéroïde 2685 Mazursky. Ce sera le seul astéroïde survolé par Cassini durant son transit vers Saturne. Et l'éloignement est tel que Mazursky n'apparaît que comme un simple point sur la photo prise avec le téléobjectif de Cassini. Sixième section, troisième sous-section, anomalie du système de télécommunication de Huygens. En février 2000, des tests de performance réalistes simulent les liaisons radio entre Huygens et Cassini, mises en œuvre durant la descente vers le sol de Titan, détectent que, dans ces conditions, 90% des données émises par Huygens sont perdues. Une investigation menée par une commission comportant les représentants de l'ESA, de la NASA et des industriels concernés, c'est-à-dire Alenia Spazio en tant que concepteur du système de télécommunication et Alcatel ex aérospatial en tant qu'intégrateur, permettent de déterminer que les changements intervenus dans la conception de Cassini ont induit un certain flou dans le cahier des charges du système de télécommunication de Huygens. Il en résulte que les données sont transmises par Huygens dans une plage de fréquence située pratiquement à l'extérieur des capacités du récepteur de Cassini. Après l'application de l'effet Doppler induit par les mouvements relatifs des deux engins spatiaux. Pour contourner cette anomalie, une modification majeure de la trajectoire de l'orbiteur et du scénario de séparation des deux engins est décidée en juillet 2001. Pour limiter l'effet Doppler, la distance entre l'orbiteur et l'atterrisseur au moment de l'arrivée de ce dernier sur Titan est portée de 1200 à 65 000 km, ce qui diminue fortement la vitesse relative d'un engin par rapport à l'autre. Mais pour obtenir ce résultat, il est nécessaire de réduire la première orbite autour de Saturne de 148 à 116 jours, ce qui diminue d'un quart à un tiers la quantité d'ergol disponible pour la suite de la mission. Celle-ci s'en trouve potentiellement raccourcie de 8 à 10 mois. Sixième section, quatrième sous-section, survol de Jupiter, décembre 2000. Une photo de la Lune Io, photographiée devant la planète Jupiter par la caméra de Cassini, illustre cette sous-section. Les premières données scientifiques de la mission sont recueillies lors du survol de la planète Jupiter. Celui-ci a pu être programmé grâce à une conjonction exceptionnelle des deux planètes géantes qui ne se produit que tous les 19,88 ans. Le survol est planifié principalement pour permettre à la sonde spatiale de bénéficier de l'assistance gravitationnelle de la planète géante et de regagner ainsi 2,1 km par seconde, faisant passer sa vitesse à 11,6 km par seconde à la sortie du système de Jupiter. Une note précise, la vitesse de la sonde spatiale a fortement chuté depuis le survol de la Terre au fur et à mesure qu'elle quitte le puits gravitationnel du Soleil. Le gain obtenu permet de réduire de 2 ans la durée du transit vers Saturne. La sonde passe à relativement grande distance de Jupiter, 9,72 millions de kilomètres, pour que l'accélération obtenue ne soit pas trop importante, ce qui aurait nécessité une plus grande quantité de carburant pour freiner la sonde spatiale et la placer en orbite autour de Saturne. Le volet scientifique de ce survol comprend l'étude de la magnétosphère de Jupiter, ainsi que de ses particules et des champs électriques et magnétiques de manière conjointe avec la sonde Galileo, en orbite autour de Jupiter depuis 1996. Cassini prend également des photos de la planète. Celle-ci remplit le champ de la caméra à partir d'une distance de 23,3 millions de kilomètres, pour permettre l'étude de son atmosphère. La sonde spatiale débute officiellement sa campagne d'observation le 1er octobre 2000, en effectuant une première photo de la planète géante, alors que celle-ci se trouve encore à 84,4 millions de kilomètres. Mais le 15 décembre 2000, une des roues de réaction utilisées pour le contrôle d'orientation de la sonde spatiale montre des signes de frottement anormaux. Le logiciel embarqué, qui supervise le fonctionnement de la sonde spatiale, désactive de manière automatique les roues de réaction et confie le contrôle d'orientation au petit propulseur RCS brûlant de l'hydrazine. L'incident n'est détecté par les ingénieurs de la NASA que 2 jours plus tard. Les instruments nécessitant des corrections permanentes de l'orientation, telles que les caméras, sont arrêtés pour limiter la consommation de carburant. Seuls restent en fonctionnement les instruments de mesure in situ. Le 18 août 2000, Cassini passe à 4,42 millions de kilomètres d'Himalaya, une des lunes de Jupiter, mais les mesures prises pour réduire la consommation d'ergol limitent les informations recueillies. Les ingénieurs de la NASA parviennent à déterminer que le problème de friction est dû à une mauvaise lubrification lorsque la roue de réaction tourne à faible vitesse sur de longues périodes, mais que celle-ci disparaît lorsque la roue tourne avec une vitesse importante. Le fonctionnement de la sonde et de ses instruments retourne à la normale le 28 décembre, soit 2 jours avant que Cassini passe au plus près de Jupiter. Mais les observations des lunes et des anneaux, ce qui ont été programmés principalement durant les investigations des ingénieurs de la NASA, n'ont pu être réalisées. Le 30 décembre 2000, Cassini passe au plus près de la planète géante à une distance de 9,72 millions de kilomètres. La sonde spatiale réalise une série continue de photos de l'atmosphère de Jupiter sur une période exceptionnellement longue, qui permet d'observer le comportement dynamique de celle-ci. La campagne d'observation de Jupiter s'achève le 22 mars 2001. Sixième section, cinquième sous-section, insertion en orbite autour de Saturne, 1er juillet 2004. Un schéma montre la trajectoire de l'arrivée de Cassini dans le système de Saturne. Sur Terre, depuis le départ de Cassini, de nombreuses observations du système de Saturne ont été effectuées à l'aide du télescope spatial Hubble, du radiotélescope d'Arecibo et des télescopes optiques terrestres les plus puissants équipés d'optiques adaptives. Les résultats ont permis de découvrir de nombreux satellites irréguliers de Saturne. La présence des mers d'hydrocarbures à la surface de Titan est un sujet controversé, mais les observations effectuées ne permettent d'apporter aucune preuve décisive. Au cours du trajet entre Jupiter et Saturne, Cassini effectue plusieurs petites corrections de trajectoire. Une des roues de réaction présente de manière sporadique des signes de frottement anormaux et elle est remplacée dans son rôle par la roue de réserve. L'instrument RPWS commence à capter des signaux radio produits par Saturne alors que la sonde spatiale se trouve encore à 2,5 unités astronomiques de la planète géante. Les observations systématiques de l'atmosphère de Saturne et de ses anneaux débutent en décembre 2003 alors que la sonde se trouve à 111 millions de kilomètres de son objectif. Les premières prises d'images de Saturne sont effectuées le 6 février 2004 et celles de Titan en avril. Tous les autres instruments scientifiques sont progressivement mis en marche. Les membres de la mission recherchent, avec les instruments de la sonde spatiale et des télescopes basés sur Terre, la présence d'éventuels obstacles sur la trajectoire suivie par Cassini lorsque la sonde coupe le plan des anneaux. Les photos prises par la sonde spatiale permettent de découvrir 2 petits satellites de quelques kilomètres de diamètre, Méton et Palène, qui se trouvent sur une orbite proche de Mimas. Cassini pénètre dans le système de Saturne en effectuant un survol de la Lune Phébé, qui orbite à 13 millions de kilomètres de la planète et dont le diamètre est d'environ 200 km. Phébé est le plus important des satellites irréguliers de la planète géante, caractérisé par leur éloignement de celle-ci et l'inclinaison importante et dans certains cas rétrograde de leur orbite. Ces satellites, compte tenu de ses spécificités, ne sont pas formés avec Saturne mais ont été capturés par la planète géante. Le 11 juin 2004, la sonde spatiale passe à 2071 km de la Lune, qui n'a jusque-là jamais été observée de près. Les photos de Phébé montrent un monde irrégulier, couvert de cratères de grande dimension. Il reste 3 semaines avant la manœuvre qui doit permettre d'insérer la sonde spatiale en orbite autour de Saturne. Le 1er juillet, vers 2h, temps universel, la sonde spatiale, qui navigue sous le plan orbital des anneaux de Saturne, le traverse à la vitesse de 22 km par seconde, en s'insinuant dans l'espace théoriquement libre d'obstacles situé entre le mince anneau F, qui marque la limite de roche de la planète, et l'anneau G. Cette traversée s'effectue avec l'antenne parabolique pointée vers l'avant pour protéger le corps de Cassini d'éventuelles particules. Une demi-heure plus tard, après que la sonde a pivoté de 180 degrés pour présenter ses truillères vers l'avant, le propulseur principal est allumé pour réduire la vitesse de Cassini et permettre une insertion en orbite autour de Saturne. Le moteur fusée fonctionne durant 96 minutes, consommant 830 kg d'ergol et la vitesse chute de 622 mètres par seconde. Durant cette phase, la sonde passe à 19 880 km du sommet des nuages de la planète, soit 0,3 fois le rayon de Saturne. La sonde est le premier objet artificiel à se placer en orbite autour de Saturne. Cette orbite est parcourue en 116 jours avec une périapside se situant à 78 720 km du centre de Saturne, 18 000 km au-dessus de la couche des nuages. Un apoapside à 9,06 millions de kilomètres et une inclinaison de 16,8 degrés. Immédiatement après l'arrêt de la propulsion, Cassini utilise les instruments VMS et UVIS pour prendre des images des anneaux, dont elle ne sera plus jamais aussi proche durant le reste de la mission. L'objectif est notamment d'obtenir des informations sur leur structure. À 5h50, la sonde spatiale traverse à nouveau le plan orbital des anneaux entre les anneaux F et G. Le jour suivant, la sonde spatiale effectue son premier survol de système, mais celui-ci se fait à grande distance, 339 000 km, et les instruments fournissent peu d'informations. L'orbite sur laquelle circule Cassini est temporaire, car elle fait passer la sonde à travers les anneaux. Aussi, la propulsion principale est utilisée pour la dernière fois, le 23 août, durant 51 minutes, pour accélérer la vitesse de la sonde de 398 mètres par seconde et faire passer son périapside à 300 000 km, c'est-à-dire à l'extérieur des anneaux les plus denses, à environ les 3/4 de la distance Terre-Lune. Septième section, opération durant la mission primaire 2004 à 2008. La phase d'étude du système de Saturne par l'orbiteur est une durée initiale de 4 années. Septième section, première sous-section, premier survol de Titan et première découverte, 26 octobre 2004. Le 26 octobre 2004, la sonde spatiale Cassini effectue un premier passage à faible distance, 1200 km, de Titan. Le satellite, entouré d'un voile opaque de nuages, a jusque-là révélé peu de choses sur sa nature, malgré les nombreuses observations effectuées depuis la Terre ou durant son survol par les sondes Voyager. Beaucoup d'informations sont attendues du passage de la sonde grâce à la faible distance et à la présence du radar capable d'observer la surface à travers les nuages. Parmi les objectifs principaux de ce survol figure la validation de la modélisation de Titan en vue de survols ultérieurs à plus faible altitude. Tous les instruments étant fixes, le pointage du radar vers la surface entre en conflit avec la mise en œuvre des instruments de télédétection et certains instruments de mesure des champs et particules qui n'ont pas les mêmes axes de visée. Aussi, l'utilisation du radar est relativement brève et ne concerne qu'une bande étroite des terres, de 120 km de large sur 2000 de long, soit moins de 1% de la surface de Titan, avec une résolution maximale de 300 mètres. Les informations collectées par le radar et les caméras fonctionnant en lumière visible et en infrarouge permettent de distinguer une surface jeune, c'est-à-dire pratiquement dépourvue de cratères d'impact, aux caractéristiques très variées, reflétant une géologie dynamique avec la présence de chaînaux et peut-être de cryovolcans, rejetant un mélange de glace d'eau et de méthane enfouis sous la surface. Selon les théories élaborées avant le survol, la présence de mer de méthane est nécessaire pour expliquer la présence d'une atmosphère comportant une proportion notable de ce gaz à la durée de vie, pourtant relativement courte. Mais aucune surface liquide de grande étendue n'est détectée. Le magnétomètre indique que Titan ne génère pas de champ magnétique. Deux jours plus tard, l'orbiteur atteint son périapside et boucle ainsi sa première orbite autour de Saturne avant de commencer à s'éloigner de la planète géante. Un deuxième survol de Titan a lieu le 16 décembre à une altitude pratiquement identique. Cette fois, le radar n'est pas utilisé et les observations portent plus particulièrement sur le comportement de l'atmosphère et sa composition. L'assistance gravitationnelle de Titan est utilisée pour ajuster précisément le prochain passage au-dessus de Titan qui doit s'accompagner de l'atterrissage de Huygens. Septième section, deuxième sous-section, atterrissage de Huygens sur Titan, 14 janvier 2005. Cette sous-section est accompagnée d'un film accéléré de la descente de Huygens vers le sol de Titan avec les différents paramètres du vol. Altitude, vitesse, direction du Soleil et de Cassini, vitesse de rotation, température, pression, ainsi que le nombre de mesures collectées. Au centre, l'image de plus en plus précise de la surface de Titan au fur et à mesure de la descente. Le 16 décembre, la sonde Cassini modifie sa trajectoire en utilisant ses propulseurs durant 85 secondes, de manière à pouvoir placer l'atterrisseur Huygens, dépourvu de moyens de manœuvrer, sur une trajectoire de collision avec Titan. Le 23 décembre, une dernière petite correction est effectuée, et deux jours plus tard, l'atterrisseur se détache de Cassini. Des ressorts lui impriment un léger surcroît de vitesse de 33 cm par seconde, qui l'éloigne progressivement de son vaisseau porteur. Auparavant, Huygens a été mis en rotation autour de son axe, 7,5 tours par minute, pour que son orientation reste stable jusqu'à l'arrivée aux abords de Titan 22 jours plus tard. Le 28 décembre, l'orbiteur Cassini corrige sa trajectoire en utilisant ses propulseurs durant 153 secondes pour passer au large de Titan. Le 31 décembre 2004, l'orbiteur passe à relative faible distance, 123 000 km, de l'hémisphère éclairé de Yapet, ce qui lui permet d'obtenir des images de bonne qualité avec une résolution maximale de 700 mètres. Aucune photo détaillée n'avait jusque-là pu être prise de cette lune qui présente un contraste inexpliqué de couleurs entre sa face avant, dans le sens de sa progression sur l'orbite, et sa face arrière. Plusieurs caractéristiques intriguent les scientifiques dans les données recueillies lors du survol. Yapet possède une crête équatoriale de 20 km de large et 13 km de haut qui court tout au long de son équateur. Ses dimensions, 749 par 747 par 713 km, lui confère une forme ovale inexplicable pour un objet céleste de cette taille. Les analyses spectroscopiques de la surface ne fournissent pas, dans un premier temps, d'explication satisfaisante au contraste de couleur des deux faces. Rentrée atmosphérique. Un schéma montre le déroulement de l'atterrissage de Huygens. À compter de sa séparation avec Cassini, Huygens est mise en sommeil. Alors qu'elle arrive à proximité de Titan, le 14 janvier, les équipements de la sonde sont réactivés. L'orbiteur Cassini, qui suit une route parallèle, pivote pour pointer son antenne à haut gain vers l'atterrisseur alors que celui-ci s'apprête à pénétrer dans l'atmosphère. L'orbiteur, relativement proche, peut recevoir un volume de données plus important et va servir de relais entre Huygens et les stations à terre. Néanmoins, plusieurs radiotélescopes terrestres sont également à l'écoute des émissions de Huygens pour détecter l'onde radio porteuse qui doit signaler le déploiement réussi du parachute principal. À 9h06, temps universel, Huygens pénètre dans l'atmosphère de Titan, à 1270 km d'altitude, à une vitesse de 5 km par seconde. Les frottements à grande vitesse dans l'atmosphère portent le bouclier thermique de la sonde à la température de 1700 degrés Celsius, tout en le ralentissant avec une décélération qui culmine à 13 G. 3 minutes plus tard, alors que la vitesse de l'engin spatial a chuté à moins de 1,4 km/h et qu'il se trouve à 160 km d'altitude, un premier parachute pilote de 2,6 mètres de diamètre est déployé et éjecte le bouclier thermique arrière. Le parachute principal de 8,3 mètres de diamètre est déployé 2,5 secondes plus tard. Il s'écoule 1 minute, puis le bouclier thermique avant est largué et l'émetteur radio de Huygens est mis en marche. Le signal émis est capté de manière très atténuée par le radiotélescope terrestre de Green Bank, environ 67 minutes plus tard, temps mis par le signal pour cheminer à la vitesse de la lumière. Les instruments de l'atterrisseur sont mis en marche. La caméra DISR prend une première image alors que la sonde se trouve entre 143 et 140 km et restitue une atmosphère faiblement éclairée. Le chromatographe à gaz GCMS commence à collecter des données tandis que le pyrolyseur ACP commence ses prélèvements à 130 km. Les capteurs de la suite instrumentale Huygens Atmospheric Structure Instrument HASI sont déployés et le spectromètre de masse GCMS effectue une première analyse de l'atmosphère à 140 km d'altitude et en effectue 3 autres avant l'atterrissage à 85, 55 et 20 km. Le Surface Science Package, SSP, est également mis en route, mesurant des propriétés de l'atmosphère. Huygens commence à transmettre les données collectées en direction de Cassini, qui défile à une distance de 60 000 km. Observation atmosphérique. Une image de la surface de Titan photographiée par Huygens après son atterrissage accompagne ce paragraphe. 15 minutes après le début de la rentrée atmosphérique, le parachute principal est largué et un autre parachute, plus petit, 3 mètres de diamètre, prend le relais. La vitesse a en effet suffisamment chuté et l'atterrisseur doit atteindre rapidement le sol pour que ses batteries soient encore en mesure de fournir l'énergie après l'atterrissage, alors que l'orbiteur est encore au-dessus de la ligne d'horizon. À 9h42, alors que la sonde se trouve à 60 km d'altitude, Huygens met en marche son altimètre radar qui doit désormais mesurer son altitude. Les images du sol qui sont prises sont beaucoup moins nettes que prévu, car l'atterrisseur traverse des couches de brume épaisse constituées de méthane à saturation. Le premier panorama du sol, dans lequel on peut distinguer de vagues formes brillantes et sombres, est pris entre 50 et 29 km d'altitude. Vers 35 km, la sonde, qui se déplace horizontalement à 20 mètres par seconde, est secouée par des fortes turbulences. L'atmosphère s'éclaircit vers 30 km. À 11h23, à proximité de la surface, Huygens allume une lampe qui doit fournir une lumière homogène et aux caractéristiques connues pour les prises d'images ultérieures. À 11h38, soit 2h30 après avoir entamé la rentrée atmosphérique, Huygens touche le sol à une vitesse de 17 km par heure. La nature du terrain est inconnue, mais selon toute vraisemblance, ce pourrait être de la glace. Opération sur le sol de Titan. Le Surface Science Package commence à transmettre des informations peu après l'atterrissage de Huygens. 1h30 après l'atterrissage, Cassini passe sous l'horizon de Titan, empêchant toute transmission de données de la part de Huygens. L'atterrisseur est parvenu à transmettre 474 mégaoctets de données depuis le début de la descente. À la suite d'une erreur de programmation de l'atterrisseur, la moitié des 1215 photos prises durant la descente et au sol, ainsi que toutes les mesures vent réalisées par l'instrument DWE, sont perdues. Septième section, troisième sous-section, caractéristiques de la trajectoire de Cassini dans le système de Saturne. Une image des orbites de Cassini autour de Saturne durant sa mission illustre cette sous-section. Objectif imposé à la trajectoire. Durant son séjour dans le système de Saturne, Cassini ne peut se contenter de se maintenir sur son orbite, car pour répondre aux objectifs scientifiques, la sonde spatiale doit survoler différents objets, la planète, les anneaux, les lunes et la magnétosphère, en respectant des contraintes de positionnement. Il s'agit, selon les cas, de passer à faible distance de l'objet observé, de se situer sur une inclinaison par rapport au plan des anneaux ou dans une position relative par rapport au Soleil ou à la Terre, etc. L'orbite doit donc suivre une trajectoire soigneusement calculée, nécessitant des fréquentes manœuvres tout en économisant le peu d'ergol dont elle dispose. Les principaux objectifs imposés à la trajectoire sont les suivants. Selon les plans d'origine, la sonde doit effectuer entre 45 et 55 survols à faible distance et ciblés les satellites de Saturne durant la mission primaire, qui court de 2004 à 2008. Un survol est dit ciblé lorsqu'il est conçu pour que la sonde spatiale passe à un point bien précis, défini par sa longitude, sa latitude et son altitude au-dessus du satellite visé. La plupart des survols ciblés se font au-dessus de Titan, parce que ce satellite de Saturne est l'objectif scientifique majeur de la mission, mais également parce qu'il s'agit du seul satellite assez massif pour permettre des modifications importantes de l'orbite grâce à l'assistance gravitationnelle. L'observation de Saturne nécessite généralement que la sonde circule au-dessus de la face éclairée de la planète géante. Les occultations de la Terre par Saturne permettent d'obtenir de nombreuses informations lorsque les émissions radio de la sonde traversent les couches de l'atmosphère de Saturne pour parvenir jusqu'à notre planète. Les déformations du signal radio, lorsqu'il traverse la mince couche des anneaux, fournissent également de nombreuses informations sur leur composition chimique, leur épaisseur et la taille de leurs composants élémentaires. Il est également important de recueillir des vues des anneaux prises à des latitudes supérieures ou égales à 55 degrés pour avoir une vue globale de ceux-ci. L'étude de la magnétosphère nécessite d'étudier in situ les caractéristiques du plasma, des particules chargées et neutres, des champs, etc., à grande distance du Soleil et dans toutes les directions, en particulier dans la magnétogène qui s'étend à l'opposé du Soleil jusqu'à 50 à 60 rayons de Saturne. L'observation des aurores boréales de la planète nécessite d'effectuer des observations depuis des latitudes élevées, dans l'idéal comprise entre 75 et 80 degrés. Mise en œuvre des changements de trajectoire. Une image de Dionée, Saturne et ses anneaux, photographiée par la sonde Cassini, illustre ce paragraphe. Les changements d'orbite de la sonde Cassini utilisent essentiellement l'assistance gravitationnelle de Titan. Chaque survol de Titan permet, s'il se produit à une altitude suffisamment faible, un changement de trajectoire équivalent à une modification de la vitesse de 850 mètres par seconde, alors que les ergols disponibles pour les manœuvres à bord de Cassini ne permettent qu'un changement de vitesse totale de 500 mètres par seconde sur toute la durée de la mission. Les autres lunes de Saturne ne sont pas assez massives pour influer de manière importante sur l'orbite de Cassini. Rhea, le satellite de Saturne le plus lourd après Titan, n'a que 2% de sa masse. La contrainte qui en résulte est que chaque survol de Titan doit ramener la sonde spatiale à proximité de Titan, éventuellement par plusieurs orbites, pour que les modifications de trajectoire puissent continuer. Différents types de modifications de trajectoire peuvent être obtenus en fonction de l'angle sous lequel la Lune est abordée. En passant sur l'arrière de Titan, par rapport à sa progression sur son orbite, la sonde spatiale augmente sa vitesse et accroît la période de son orbite. Inversement, en passant devant Titan, la sonde diminue sa période orbitale. Ces manœuvres modifient également la ligne des absides. Sous d'autres angles de survol, la période de l'orbite est conservée, mais c'est l'excentricité orbitale et son inclinaison orbitale qui sont modifiées. Modification de l'orbite durant la mission primaire. Les trois premières orbites de Cassini autour de Saturne ont pour objectif de réduire à la fois l'inclinaison orbitale, qui est pratiquement annulée, et la période de révolution de l'orbite, qui est ramenée de 48 à une vingtaine de jours. Par ailleurs, la ligne des absides de l'orbite est modifiée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de manière qu'elle se confonde avec l'axe Saturne-Soleil, et à ce que l'apoapside soit côté Soleil. La sonde spatiale dispose ainsi de temps pour effectuer des observations de l'atmosphère de Saturne du côté de sa face éclairée. Un survol de Titan permet ensuite d'orienter la ligne des nœuds pour qu'elle soit pratiquement perpendiculaire à la Terre, ce qui permet au cours des 7 orbites suivantes d'obtenir des occultations de la Terre par Saturne. Au cours de la seconde phase de la mission primaire, qui débute en octobre 2005, après une série rapprochée de survols ciblés des satellites glacés de Saturne, l'orbite est pivotée par une série de survols de Titan alternant la phase tournée vers Saturne et celle tournée vers l'extérieur. L'objectif est d'analyser in situ la magnétogaine. Durant la troisième phase de la mission primaire, qui débute en juillet 2006, l'inclinaison est progressivement relevée, tandis que la période est maintenue à 16 jours, ce qui permet d'effectuer des observations des anneaux à faible distance sous un angle fournissant de nouvelles informations. Après avoir culminé à 55 degrés, l'inclinaison est abaissée jusqu'à 0 degré, tandis que la ligne des absides pivote de 180 degrés, en faisant coïncider la ligne des nœuds avec l'axe Saturne-Soleil. La phase 4, entamée en août 2007, a pour objectif principal d'augmenter autant qu'il est possible l'inclinaison de l'orbite, environ 75 degrés, pour l'étude des anneaux et les mesures in situ des champs et particules. Septième section, quatrième sous-section, fait marquant de la mission primaire. Deux images illustrent cette sous-section. Titan en arrière-plan, les anneaux et la petite lune Épiméthée en premier plan, 2006. Et la lune Iapète. Le 17 février 2005, la sonde Cassini passe à 1577 km de la lune Encélade. Celle-ci présente la particularité d'avoir un albédo très proche de 1, réfléchissant pratiquement toute la lumière reçue. Les photos prises par les caméras 10 fois plus détaillées que celles des sondes Voyager montrent une boule de glace pratiquement vierge de cratères d'impact, parcourue de sillons et de renflements à l'apparence très proche des lunes de Jupiter, Ganymède et Europe. Les analyses spectrales démontrent que la surface est constituée de glace d'eau presque pure, ce qui explique son albédo élevé. Durant un deuxième passage, effectué le 16 mars 2005, la magnétomètre de la sonde spatiale détecte une modification du champ magnétique de Saturne qui révèle la présence d'une atmosphère. Celle-ci, compte tenu de la faiblesse du champ de gravité de la Lune, trahit sans doute l'éjection de gaz par une forme d'activité volcanique. Au cours de ces survols, le détecteur de poussière met en évidence une densité particulièrement importante de particules qui pourraient avoir pour origine soit Encélade, soit l'anneau E. Pour lever l'incertitude sur leur source, il est décidé d'abaisser l'altitude du survol suivant, qui doit avoir lieu en juillet. Le 10 mai, le JPL confirme la découverte d'une nouvelle lune provisoirement baptisée S2005, S1, qui prendra plus tard le nom de Daphnis. Celle-ci avait déjà été détectée en mai 2004, mais son existence est confirmée grâce à une photographie prise durant le survol des anneaux. Le 14 juillet, la sonde spatiale effectue un nouveau survol à basse altitude, 175 km, au-dessus d'Encélade. Les images prises montrent que les terrains du pôle sud sont géologiquement jeunes. Ils sont barrés par quatre failles énigmatiques et jonchés de blocs de glace qui peuvent atteindre la taille d'un immeuble. Les quatre failles, longues environ de 130 km et distantes de 40 km, qui ont été baptisées rayures du Tigre, sont à l'échelle géologique très jeune, entre 10 et 1000 ans. On y trouve les évents qui éjectent en permanence de la vapeur et de la glace d'eau. La température au pôle sud, mesurée par le spectromètre infrarouge, est beaucoup plus élevée que ce prédisent les modèles compte tenu de l'albédo élevé de la surface et de l'incidence rasante des rayons du Soleil à ces latitudes. Le spectromètre de masse mesure que l'atmosphère qui entoure la Lune est composée de 65% de vapeur d'eau, à 20% d'hydrogène moléculaire, ainsi que de proportions plus faibles de dioxyde de carbone, d'azote moléculaire et de monoxyde de carbone. Le 23 septembre 2005, Cassini survole Tétis à 1500 km. Le 25 septembre 2005, la sonde passe à 514 km d'Hyperion. C'est le seul survol d'Hyperion planifié durant la mission primaire. Il permet de révéler, de façon très détaillée, la structure étonnante de sa surface, semblable à une éponge qui découle des impacts répétés sur une lune à faible densité et forte porosité. Un survol à relativement grande distance d'Encelade permet la mesure spectrale des jets de matière du pôle sud et la confirmation de l'hypothèse selon laquelle ceux-ci sont à l'origine du matériau de l'anneau E. 11 octobre 2005, survol de Dionée à 500 km et le même jour du satellite Télesto à 10 000 km. 28 octobre 2005, survol de Titan à moins de 1350 km. 26 novembre 2005, survol de Rhea à 500 km. 21 juillet 2006, survol de Titan à altitude minimale de 950 km. 30 août 2007, second survol de Rhea à 5737 km. 10 septembre 2007, second et dernier survol de Yapet à moins de 1650 km. Le 12 mars 2008, Cassini s'approche à moins de 50 km d'altitude d'Encelade, en traversant ses geysers. Les photos prises montrent que le pôle Nord, contrairement au pôle Sud, est fortement cratérisé, donc ancien, mais qu'il est également parcouru de fissures parallèles créées par une activité tectonique. Les mesures de température à haute résolution réalisées à l'aide du spectromètre infrarouge montrent que la température le long des rayons du Tigre peut atteindre moins 93 degrés Celsius, soit 115 degrés Celsius de plus que dans les autres régions de la Lune. Compte tenu de ces températures élevées, il est probable qu'il existe un océan liquide sous la surface d'Encelade. Les caractéristiques des matériaux éjectés par les geysers sont étonnamment proches de la matière composant les comètes. Pour finir cette section, deux images, de gauche à droite, les anneaux de Saturne C, B et A. L'image du haut est un mosaïque des photos prises par la caméra de Cassini en décembre 2004. L'image de bas est une vue reconstruite à partir d'occultations radio réalisées en mai 2005. Huitième section, seconde phase de la mission, 2008 à 2017. Une image montre la synthèse des survols effectués par Cassini sur l'ensemble de la mission. Huitième section, première sous-section, première extension de mission, Cassini Equinox Mission, 2008 à 2010. La mission primaire du programme Cassini s'achève le 30 juin 2008, après 76 révolutions autour de Saturne. À cette date, la sonde dispose toujours de réserves de propergol importantes qui lui sont nécessaires pour modifier plusieurs fois par mois son orbite et poursuivre le recueil des données en survolant diverses cibles satellitaires. Le 15 avril 2008, la NASA décide, compte tenu des réserves d'ergol restantes, de prolonger de 2 ans la mission. L'extension de la mission est baptisée Cassini Equinox Mission, car l'équinoxe de Saturne doit se produire le 11 août 2009. Durant cette nouvelle phase de la mission, la sonde spatiale va parcourir 60 orbites supplémentaires autour de Saturne, en effectuant 21 survols de Titan, 7 d'Encelade, 6 de Mimas, 8 de Thésis et 1 de Dionée, de Rhea et d'Hélène. Le 11 août 2008, la sonde survole Encelade et parvient à réaliser des photos à haute résolution des terrains d'où jaillissent les geysers. Les images montrent à nouveau les rayures de Tigre, faille profonde de 300 mètres, d'une section en V qui héberge les geysers. D'après les premières analyses, les points d'émergence des geysers sont, au bout de quelques mois ou quelques années, obturés par la glace et se déplacent donc de manière continue. Deux autres survols ont lieu les 9 et 31 octobre 2008. Les données recueillies donnent à penser qu'Encelade est le siège d'une forme de tectonique de plaques, mais, contrairement à ce qui se passe sur Terre, le déplacement se fait dans une seule direction. En août 2009, c'est l'équinoxe de Saturne. Le rayonnement du Soleil frappe les anneaux perpendiculairement à leur tranche, ce qui les fait disparaître visuellement. L'équipe scientifique de Cassini en profite pour étudier la structure verticale des anneaux qui est mise en évidence par l'éclairage rasant. contrairement aux hypothèses émises, qui évaluent l'épaisseur des anneaux à une dizaine de mètres, les images révèlent par endroits des surépaisseurs qui atteignent parfois 4 km de haut. Huitième section, deuxième sous-section, seconde extension de mission, Cassini Solstice Mission, 2010 à 2017. Deux images illustrent cette sous-section. Photographie d'Encélade prise par Cassini lors de son dernier survol du satellite. Différentes couches de l'atmosphère de Saturne sont visibles en bas. Et les étonnantes ondulations des anneaux de Saturne générées par la petite lune Janus, photographiée durant l'apothéose juin 2017. Objectif. Les réflexions sur une deuxième extension de mission sont engagées avant même que débute la première extension. En février 2010, la NASA annonce qu'elle a allongé un budget de 60 millions de dollars pour prolonger de 7 ans la mission Cassini, courant de juillet 2010 jusqu'en septembre 2017. La nouvelle mission est baptisée Cassini Solstice Mission, car elle permet d'observer le système de Saturne au moment du solstice d'été de son hémisphère nord, qui a lieu en mai 2017. Au cours de cette phase, Cassini doit boucler 155 orbites autour de Saturne, effectuer 54 survols de Titan, dont 38 à moins de 2000 km, 11 d'Encélade, dont 2 à faible distance, 3 de Dionée et 3 de Rhéa. Néanmoins, ce prolongement se déroule dans des conditions moins favorables. La quantité d'ergol limitée ne permet pas d'approcher Yapet et le support apporté par les équipes au sol durant les survols est réduit à quelques jours pour abaisser les coûts. Durant cette phase, Cassini observe les processus dépendants des changements temporels et saisonniers affectant Saturne, Titan, les lunes glacées et les anneaux. Cette phase permet de compléter les observations sur Titan et Encélade. Enfin, dans sa phase finale, elle permet de mener une étude comparative de Saturne et de Jupiter, étudiée par la sonde spatiale Juno, qui doit entamer ses observations en août 2016. Déroulement. Le 2 novembre 2010, la sonde spatiale passe automatiquement en mode survie après détection d'une inversion de bits par l'ordinateur embarqué. Un bit de valeur 0 devient 1, ou le contraire, au sein des données informatiques. Un mode dans lequel l'engin coupe tout équipement à bord non dispensable. L'incident est le sixième depuis le début de la mission et est sans doute dû à l'impact d'une particule du rayonnement cosmique. Mais ses répercussions sont plus importantes car il se produit peu avant le survol de Titan et les contrôleurs au sol préfèrent, par sécurité, abandonner le recueil des données scientifiques prévues durant celui-ci. La crise économique des années 2010 entraîne une importante baisse de budget de la NASA. Début 2013, pour faire face à ces contraintes budgétaires, la NASA envisage d'arrêter certaines missions spatiales interplanétaires, dont Cassini. Dans le cadre de ce processus budgétaire, les résultats fournis par Cassini sont évalués par le comité de conseil scientifique de la NASA, qui les juge excellents, plaçant la mission en tête des missions dont l'arrêt est envisagé. Finalement, en septembre 2014, l'agence spatiale américaine décide de financer les 3 dernières années de la mission de Cassini, de 2015 à 2017. En juillet 2012, Cassini change son inclinaison orbitale, c'est-à-dire l'angle que fait sa trajectoire lorsqu'elle traverse le plan équatorial de Saturne. Sur cette nouvelle orbite, les instruments de la sonde spatiale disposent d'une meilleure perspective pour observer les anneaux de Saturne ainsi que l'atmosphère de Saturne et des lunes. La sonde spatiale peut également survoler le pôle nord de Saturne qui est éclairé depuis la survenue du printemps dans l'hémisphère nord. Des photos de l'étonnante formation nuageuse hexagonale centrée sur le pôle sont effectuées fin 2012. Le 28 octobre 2015, la sonde survole Encélade à 49 km d'altitude, et le 19 décembre 2015, elle effectue son dernier survol du satellite à environ 4999 km d'altitude. Huitième section. Troisième sous-section, fin de mission, l'apothéose, d'avril au 15 septembre 2017. Un schéma montre les dernières orbites de la fin de la mission qui amène la sonde spatiale à frôler les anneaux de Saturne et les couches supérieures de l'atmosphère de Saturne. Contrainte. En 2017, la sonde spatiale a passé 13 années en orbite autour de Saturne, qui ont succédé à 7 ans de transit entre la Terre et la planète géante. Les ergols indispensables pour poursuivre sa mission scientifique et contrôler sa trajectoire sont pratiquement épuisés. Or, les modalités de destruction de la sonde spatiale doivent être contrôlées pour que Cassini n'achève pas sa course sur la surface d'Encélade ou de Titan. Ces deux satellites pourraient en effet héberger des formes de vie, et il ne faut pas que les micro-organismes terriens que transporte Cassini malgré la stérilisation effectuée avant son lancement puissent les contaminer. Une note précise, la stérilisation est toujours partielle. Par ailleurs, des expériences réalisées au bord de la Station spatiale internationale ont démontré que des micro-organismes terrestres exposés dans le vide de l'espace pouvaient survivre plusieurs années. La NASA étudie plusieurs scénarios pour la phase finale. L'envoi de la sonde spatiale vers une autre planète externe ou vers un astéroïde Centaure situé entre Jupiter et Neptune n'est pas retenu car le transit nécessite trop de temps. Une note précise, 10 ans pour les astéroïdes centauriens et 44 ans pour Neptune. L'équipe de la mission envisage de placer Cassini sur une orbite stable à l'extérieur de celle des satellites Phébé ou Titan. Sélection du scénario de fin de mission. La trajectoire retenue est sélectionnée parce qu'elle fournit des résultats scientifiques majeurs qui ne peuvent être obtenus que dans le cadre d'une fin de mission. Elle consiste à abaisser le périapside de Cassini de manière que la sonde spatiale se glisse pour ses dernières orbites dans un intervalle large de 2400 km entre l'anneau D, le plus proche de la surface de Saturne, dont le bord intérieur se situe à 65 000 km du centre de Saturne, et la partie la moins dense de la couche atmosphérique supérieure de la planète géante qui cumule à 62 000 km. Une note précise. En dessous de 61 500 km, la pression exercée par l'atmosphère de Saturne ne permet plus de maintenir l'orientation de la sonde spatiale. En dessous de 60 500 km, la sonde spatiale ne peut plus s'extraire de la couche atmosphérique. La pression atmosphérique atteint 1 bar, soit la pression sur le sol terrestre, à partir de 60 200 km. La phase finale court d'avril 2017 à septembre 2017. Elle débute par 20 orbites rasant l'extérieur de l'anneau F, permettant d'obtenir des images à haute résolution des anneaux F et A, suivie de 22 orbites de proximité passant à l'intérieur de l'anneau D. La mission s'achève par le plongeon de la sonde spatiale au cœur de la planète géante, le 15 septembre 2017. Une note précise, la destruction de la sonde pourrait être plus tardive si elle disposait de suffisamment de carburant pour prolonger son séjour en orbite basse. L'ensemble de ces manœuvres nécessite seulement un changement de vitesse de 5 à 30 mètres par seconde, compatible avec les réserves de carburant. Les dernières orbites placent la sonde dans une position idéale pour remplir plusieurs objectifs scientifiques majeurs. Mesurer de manière très précise le champ de gravité de Saturne, ce qui donne des indices sur la structure interne de la planète, notamment la taille et la masse de son noyau. Réduire l'incertitude sur la masse des anneaux qui devrait chuter de 100 à 5%. Cette information contribuera à déterminer leur ancienneté et à valider le modèle imaginé pour expliquer leur formation. Collecter des données sur l'ionosphère et la ceinture de radiation. La collecte de données précises sur le champ magnétique doit permettre de mesurer la rotation différentielle du cœur par rapport à son noyau et fournir une explication aux écarts entre les relevés effectués par la sonde spatiale Voyager 2 en 1981 et ceux réalisés jusque-là par Cassini. Étudier la structure de l'anneau D. Déroulement du grand final. Un tableau relate la chronologie des derniers mois de la mission. Précision sur les indications de temps. Les données sont reçues sur Terre 1h et 23 minutes plus tard, temps de transmission à la vitesse de la lumière. Temps en France est égal temps universel plus 2 heures. Événement. Apoapside première orbite du grand final. Numéro d'orbite 271. Date 23 avril 2017. Événement. premier passage entre les anneaux et Saturne. Numéro d'orbite 271. Date 26 avril. Description. Cassini se faufile pour la première fois entre l'anneau interne et la couche supérieure de l'atmosphère de Saturne, en utilisant l'antenne parabolique comme bouclier contre d'éventuels impacts avec des particules. La sonde spatiale va effectuer 22 orbites de ce type avant de plonger dans l'atmosphère. Événement. Apoapside, dernière orbite complète. Numéro d'orbite 292. Date 5 septembre. Événement. Apoapside, dernière orbite. Numéro d'orbite 293. Date 12 septembre. Événement. Dernières images du système saturnien. Numéro d'orbite 293. Date 14 septembre, 18h58, temps universel. Description. Cassini réalise les dernières images du système saturnien et retransmet les photos des lunes Titan et Encélade du pôle Nord et des anneaux de Saturne. Événement. Début transmission en temps réel des données. Numéro d'orbite 293. Date 15 septembre, 7h14, temps universel. 3 heures avant la fin de la mission, la sonde spatiale se met en rotation à raison d'un tour toutes les 5 minutes pour optimiser l'analyse in situ de l'atmosphère par l'instrument INMS. Cassini commence à transmettre en temps réel avec un débit de 27 kilobits par seconde les données collectées par les caméras CIRS, UVIS ainsi que les instruments de mesure du plasma et du champ magnétique. D'habitude, ces données sont transmises après le passage au plus près de Saturne. Événement. Plongée dans l'atmosphère de Saturne. Numéro d'orbite 293. Date 15 septembre, 10h30, temps universel. Cassini pénètre dans l'atmosphère de Saturne à environ 1920 km au-dessus de la couche nuageuse. La poussée des moteurs fusées est positionnée à 10% de leur capacité pour maintenir l'orientation de la sonde spatiale malgré les forces croissantes exercées par l'atmosphère, permettant ainsi de pointer l'antenne parabolique vers la Terre afin de transmettre les données. Événement. Perte du signal. Numéro d'orbite 293. Date 15 septembre 10h31, temps universel. Description. La sonde spatiale, qui se trouve encore 1510 km au-dessus de la couche nuageuse, utilise à 100% la poussée de ses moteurs, mais ne parvient plus à composer la traînée générée par l'atmosphère. Elle part en toupie et l'antenne parabolique n'est plus pointée vers la Terre. Un écart de l'axe de visée de l'antenne d'une fraction de degré entraîne la perte de la liaison. Les communications avec celle-ci sont rompues. La perte de la liaison radio se produit alors que la sonde spatiale se trouve 1510 km au-dessus de la couche nuageuse. Événement. Destruction de la sonde. Numéro d'orbite 293. Date 15 septembre 11h55, temps universel. Description. Dans les minutes qui suivent la perte du signal, la sonde spatiale est progressivement détruite par les forces mécaniques et la chaleur produite par sa vitesse dans une atmosphère de plus en plus dense. Pour finir cette section, une image de la désintégration de la sonde spatiale Cassini dans l'atmosphère de Saturne, dans laquelle elle pénètre à une vitesse supérieure à 31 km par seconde au moment de la perte de la liaison de radio. Vue d'artiste, extrait du film Dernier voyage vers Saturne 2017 de Terry Randall, Arte. Fin de la deuxième partie de l'enregistrement. Les sections 9, 10 et l'infobox sont dans la troisième partie de l'enregistrement, avec à la fin l'indication de la licence.